Est-ce que tu es prête en 2024 à devenir épanouie, rayonnante et confiante? Peut-être qu'aujourd'hui, tu sens que tu n'es pas tout à fait à ta place. Au fond de toi, tu sais que si tu ne fais pas un pas fou et courageux dans le vide, alors tu resteras confortable, mais tu n'iras pas jusqu'au bout de cet appel intérieur qui te guide. Lorsque j'ai embarqué sur mon premier 200 heures yoga teacher training, je n'avais aucune idée de l'aventure dans laquelle j'embarquais. Et si elle m'a permis d'enseigner le yoga, ce qu'elle m'a surtout permis de faire, c'était de reconnecter pleinement avec qui je suis. Et c'est ce que je te souhaite. Les portes de mon 200 heures yoga teacher training sont ouvertes. Et cette formation, elle est à propos de toi. Tu seras accompagné par une équipe d'experts pour reconnecter avec tous les aspects de toi-même. Retrouver ta force, ta vulnérabilité, tes émotions, prendre confiance en toi et rayonner. Les deux stages immersifs de 10 jours chaque te permettent de transformer et de repartir avec toutes les clés pédagogiques et de transmission pour pouvoir à ton tour enseigner le yoga. Pas besoin d'être une perfect yogi avant de venir sur la formation. En fait, quand j'ai embarqué sur mon premier yoga teacher training, et c'était il y a 10 ans, je n'avais fait que 5 cours de yoga. Et regarde où j'en suis à présent. Alors n'hésite plus, c'est maintenant que ça se passe. La formation commence début mai, découvre le programme complet et inscris-toi en te rendant dès à présent sur mon site internet, anoukoroller.com. Ce que j'aime le plus, c'est l'aventure. Partir en rando, en bivouac, dormir sous les étoiles, prendre le large, apprendre à faire de l'apnée, surfer au lever du matin. Mais parfois, c'est pas facile de trouver les copines disponibles et motivées pour partager ce genre d'aventure. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais te présenter Audencia. Audencia, c'est une petite agence créée par Maeva qui propose des séjours aventure et bien-être 100% féminin. Au programme, un week-end randonnée à ski avec 2 nuits en refuge au cœur des Alpes. De la voile d'hiver et d'été dans les fjords en Norvège. Une rando à cheval et bivouac sur plusieurs jours à travers les Pyrénées. Le tout avec du yoga, de la méditation. Bref, c'est le programme de mes vacances de rêve. Rien besoin d'organiser, juste profiter avec des meufs trop cool. Si tu écoutes ce petit message et que tu embarques toi-même sur un séjour Audencia, n'oublie pas de dire à Maeva lors de ton inscription que tu viens de ma part pour bénéficier d'un petit cadeau de moi-même. Pour découvrir tous les séjours Audencia, rendez-vous sur audencia.com. Épisode 133 avec Aïcha Seabirth. Bienvenue dans la saison 4 de mon podcast. Moi, c'est Anouk, je suis professeure de yoga, une aventurière, et mon terrain d'exploration favori, c'est le monde intérieur. Je pense que, comme l'océan, c'est un univers riche et complexe. Dans ce podcast, que j'appelle aussi mon journal de bord, tu trouveras tous les mardis, dès 7h du matin, un nouvel épisode de moi ou de mes invités, pour apprendre à mieux naviguer sur l'océan de ta vie, c'est-à-dire à rayonner dans tous les domaines et vivre ta meilleure vie. Pour recevoir plus d'informations et de partages, rendez-vous sur mon site internet anoukoroller.com et inscris-toi à ma newsletter. Mon invitée d'aujourd'hui est la fondatrice de l'école du Tao de la vitalité, Aïcha Seabirth. Aïcha pratique et enseigne les arts énergétiques depuis près de 30 ans et sa mission est de révéler la puissance des femmes. J'ai découvert son travail grâce à son livre « Déesse du Tao, déployez votre alchimie sacrée féminine » dans lequel elle partage plein de pratiques pour rester en pleine santé à travers votre année, à travers les saisons, mais aussi pour reconnecter avec votre puissance féminine. Dans l'épisode, vous trouverez le parcours de Aïcha, ce qui a fait qu'elle s'est orientée vers cette philosophie, ce qu'est le Tao et les fondements. Aïcha nous mène
également à travers toutes les saisons, les 5 saisons, elle en parle plus dans l'épisode, et nous donne des conseils en termes d'hygiène de vie, mais aussi de gestion émotionnelle et bien sûr des pratiques corporelles à appliquer pour rester en pleine santé. Vous trouverez aussi une méditation guidée, à peu près à 1 minute 15 de l'épisode. Donc si c'est possible pour vous de fermer les yeux, bien sûr si vous ne conduisez pas, ça peut être un chouette moment que vous vous offrez pendant votre journée. Et à travers ces enseignements, Aïcha nous aide à révéler notre puissance féminine. Et dans cette thématique, elle parle par exemple de découvrir le pouvoir secret de nos seins. Et je questionne Aïcha à ce sujet dans l'épisode. Pour retrouver le travail d'Aïcha, rendez-vous sur son Instagram, Aïcha Seabirth. Vous trouverez aussi les dates des formations et de ses retraites sur le site internet taodelavitalité.org. Et encore une fois, je vous recommande chaudement son livre « Déesse du Tao, déployez votre alchimie sacrée féminine » sorti chez Le Duc. Je vous laisse sans plus tarder avec cette magnifique conversation et je vous retrouve à la fin de l'épisode. Très belle écoute. Bienvenue Aïcha sur le podcast. Merci encore une fois de prendre le temps pour cette conversation. Pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter et également présenter ton travail qui se tourne autour de la philosophie du Tao? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressée, toi, à cette philosophie? Qu'est-ce qui a fait que finalement ton chemin de vie s'est présenté dans cette voie-là?
Oui, ben ça c'est une longue histoire, effectivement, pour faire court. Voilà, donc je suis d'origine des États-Unis, j'étais née là-bas. Après, en lien avec le travail de mes parents, ils étaient journalistes et photographes, donc ils voyageaient beaucoup dans le monde. J'étais amenée depuis toute petite à habiter déjà au Japon. Et donc c'est là-bas où j'ai effectivement eu ma première ouverture, on va dire, vers une vision plus, on va dire, holistique peut-être de la vie, avec la philosophie du bouddhisme et le shintoïsme, les traditions plus ancestrales, on va dire, qui sont encore très intertissées dans la culture même moderne, à l'époque, c'était dans les années 70, donc voilà, ça date déjà un petit peu. Mais j'étais déjà sensibilisée à ça en étant un occidental. Ça m'a touchée beaucoup, même en étant petit, de grandir dans cette ambiance-là. Et quand je suis revenue aux États-Unis, j'ai vu vraiment le contraste, on va dire, de culture. J'ai eu un petit peu le choc de culture. Et donc voilà, j'ai mis beaucoup de temps, on va dire, à essayer de retrouver un petit peu cette ouverture de cœur, cette façon de vivre plus en lien avec les forces de la nature, toute la dimension spirituelle, on va dire, qui est intégrée dans la vie quotidienne, qui est beaucoup plus présente dans les cultures asiatiques, en tout cas telles que moi je les ai expérimentées. Donc après, je me suis formée surtout, j'ai fait beaucoup de la danse. J'étais vraiment dans mon corps, dans l'artistique et dans le travail aussi du massage. J'étais très intéressée par tout ce qui était l'énergie corporelle, l'énergie de la conscience. C'est qui regarde à travers ses yeux, c'est qui ressent notre corps. Qu'est-ce qui fait qu'on sent que ça c'est mon corps, ça c'est plus mon corps, ça c'est mon émotion, ça c'est ma pensée. Enfin, tu vois, les différentes parties de nous-mêmes. Et je me suis posé ces questions déjà tout jeune. Et j'ai fait des longues recherches aussi en allant plus dans le yoga, effectivement, dans les traditions indiennes, qui m'ont beaucoup soutenue aussi. Et un jour, de fil en aiguille, je faisais un stage d'arts martiaux à l'époque, et puis on m'a parlé d'un stage de Tao. J'ai dit, le Tao, ça me parle, je ne savais pas trop ce que c'était. Et c'était ici en France, en fait, j'étais déjà arrivée ici en France. Et donc, j'ai fait ce week-end d'initiation et ça m'a tellement parlé parce qu'on a fait la posture de l'arbre, par exemple. Enfin, c'est une des structures, une des postures qu'on fait où on travaille vraiment l'ancrage, l'enracinement et aussi la capacité de résister, de pousser fort, sans effort, sans émettre un effort musculaire, sans lutter contre quoi que ce soit. Et tu vois, on encaisse en fait un adversaire, un partenaire qui nous pousse. Et plus il nous pousse, plus on sent notre enracinement dans la terre, et plus on sent que, il y a quelque chose qui se déploie à l'intérieur de nous, en fait. plutôt que de s'écrouler ou de se braquer. Et on rentre dans un état un petit peu de non-effort, mais très puissant. Et j'avais jamais senti mon ancrage, tout en ayant fait, tu vois, j'avais beaucoup de bagages déjà avec la danse, le travail corporel et les soins corporels, tout ça. Et j'ai dit, waouh, ça m'a tellement parlé. Et c'était le qigong de la chemise de fer. Enfin, c'est comme ça que ça s'appelle, cette technique d'ancrage et de structure dans le non-effort. Et depuis ce week-end-là, j'ai dit, waouh, je pense que là, j'ai trouvé ma voie. Enfin, j'étais sûre même. Donc, j'ai découvert que cette pratique-là, que je venais juste d'expérimenter, venait de la tradition de Maître Mantakya, c'est de son enseignement, de son école. Et c'est un des premiers maîtres qui a amené le taoïsme en Occident dans les années 70. Et donc, il a écrit, en fait, j'ai trouvé qu'il avait écrit plein de livres. Donc j'ai commencé à fouiner un petit peu, et puis après je suis allée étudier avec lui dans son école en Thaïlande, voilà, pendant des longues années, puis voilà, ça m'a absorbée complètement, et voilà, depuis je suis passionnée par ce travail.
Et donc pour des gens qui nous écoutent et qui ne connaissent absolument rien au Tao, est-ce que tu peux reprendre les fondements de cette philosophie ?
Et oui, ben c'est une vaste philosophie. Donc voilà, effectivement, ce qui m'a parlé au début, c'était vraiment le lien avec le corps. Tu vois, c'est parce que c'est une philosophie spirituelle, mais qui est très pragmatique et qui passe par le corps. Donc c'est là où on est, tel type de personne on est, on peut le prendre par plein de biais différents. Donc on va dire, le fondement, c'est déjà l'état de notre équilibre entre le yin et le yang, c'est-à-dire le yin étant, on peut dire dans ce contexte-là, notre corps, et le yang étant notre esprit. Et donc c'est une voie, c'est une philosophie concrète qui nous apprend comment raccorder notre part yin, notre part yang, notre corps, notre esprit, dans un tout unifié, pour générer justement une énergie qui est à la base vitale pour notre santé, mais aussi une énergie spirituelle qui nous relie en fait avec tous les êtres autour de nous et avec le grand tout. Donc c'est vraiment un chemin d'évolution spirituelle, une évolution personnelle, mais qui passe par renforcer le corps, développer le corps, la respiration, l'ancrage, l'alignement entre notre corps, les forces de la nature autour de nous, les huit directions, terre, ciel. Enfin, il y a toute une géométrie très précise et très structurée dans laquelle on peut se situer pour vraiment mettre tous les chances de notre côté pour s'harmoniser au mieux déjà avec nos propres organes, nos propres systèmes internes en lien avec les forces autour de nous. Voilà. Donc c'est on va dire les origines du taoïsme, ça vient des origines chamaniques, hein, préhistoriques, à l'époque paléolithique, quand on vivait encore comme des tribus nomades dans la nature. Et donc il y avait vraiment cette relation très forte avec la nature, les constellations, le guidance des forces, hein, du jour et de la nuit, soleil, la lune, voilà, et donc toute cette alternance des saisons qui œuvrait à l'intérieur de nous en tant qu'humains, et avec laquelle on pouvait se mettre en phase pour soigner nos maladies ou pour soigner nos déséquilibres ou juste pour vivre bien aussi et d'évoluer sur le plan spirituel.
Par où est-ce qu'on peut commencer ? Par exemple, je pense à quelqu'un qui nous écoute, qui sent peut-être qu'elle a des déséquilibres dans sa vie. Par exemple, de quelle manière est-ce qu'on peut commencer à regarder dans ce principe du yin-yang pour trouver plus d'harmonie ?
C'est ça, voilà. Donc il y a les origines qui ont été pratiquées par des gens dans leur vie quotidienne au jour le jour pour justement arriver à bien vivre dans des conditions beaucoup plus rudes de ce qu'on vit aujourd'hui, on va dire. Donc hein, c'est vraiment facile en fait de transposer ces mêmes principes dans notre vie d'aujourd'hui, parce que c'est encore plus confort, hein, parce que les principes restent toujours les mêmes, hein, que équilibrer notre yin, notre corps, avec le yang de notre esprit, par exemple, ou le yin étant notre part intérieure, avec notre yang, notre part plus extérieure, hein, sociale, voilà. Et puis, donc, petit à petit, comment on peut utiliser ces principes qui issus du taoïsme, appliqués à notre vie d'aujourd'hui. Il y a vraiment, sur le plan de l'alimentation déjà, sur le plan de l'hygiène de vie, Voilà, déjà, il y a pas mal de choses à faire, sans parler donc des pratiques. Donc, c'est surtout les pratiques taoïstes, comme les pratiques du yoga. Enfin, on peut dire que le yoga a été développé en Inde dans la même période, à peu près de la même façon que le Tao a été développé en Chine. C'est à peu près équivalent, on va dire. Tous les deux, ce sont des sciences de vie très complets qui visitent vraiment tous les aspects de la vie. Hein, c'est juste qu'une s'est développée bah, géographiquement dans voilà, un climat, on va dire, plus subtropical en Inde, alors que dans le Tao, ça s'est développé plus dans un climat continental, dans les montagnes, voilà, où il y a vraiment les quatre saisons. Et donc, voilà, il y a toute une manière de gérer le changement de saison, les transitions de saison, pour qu'on ne chope pas les rhumes, que voilà, on arrive à surfer la vague pour de rester fraîche en été, de garder la chaleur en hiver, et enfin voilà, de maintenir un bon équilibre quoi. Donc concrètement, c'est les pratiques respiratoires, les pratiques de méditation et des pratiques d'étirement corporel. On appelle donc notamment le Daoyin, c'est le yoga taoïste. Daoyin, ça veut juste dire le chemin de l'esprit à l'intérieur du corps. Enfin, comment est-ce qu'on dirige notre intention dans notre corps pour générer notre énergie vitale par des mêmes types d'étirements qu'on retrouve dans le yoga indien. Donc c'est très très similaire, mais l'accent dans le Tao va être beaucoup plus sur comment rassembler notre énergie dans notre centre, dans notre Dantien. Ça, c'est une notion vraiment spécifiquement taoïste qu'on trouve dans aucune autre voie spirituelle que j'ai pu voir. Hein, cette notion de notre centre vital en étant dans l'espace de notre bassin bas-ventre, notre centre de gravité corporelle, et dans laquelle on emmagasine en fait notre attention, notre énergie et notre force pour pouvoir bien soutenir tous les chakras, tous les centres d'énergie qui circulent dans le reste du corps. C'est comme le réserve, on nourrit en permanence le réserve qui nourrit tous les chakras, tous les méridiens, tous les organes de notre corps. Donc la respiration, les étirements, les méditations sont tous axés sur comment nourrir ce dantien, ce centre vital, ce noyau de notre corps et de notre être. Et de maintenir toujours cette énergie en ébullition, voilà, que ça soit toujours en train de pétiller, quoi.
Est-ce que c'est ça que tu appelles le chaudron sacré?
Oui, voilà, donc c'est très lié avec ce qu'on appelle le chaudron sacré, tout à fait. Et donc, quand on transpose dans les pratiques, alors spécifiquement féminines, hein, parce que là, les pratiques taoïstes, c'est bon pour tout le monde, hein, homme-femme, peu importe l'âge, peu importe le plan de vie, tout ça, peu importe son degré de souplesse ou de maladie ou de santé, tout le monde peut les pratiquer. Mais après, voilà, on a des pratiques spécifiques pour les femmes et pour les hommes et pour les couples également. Donc, quand ça concerne les femmes, oui, on a un chaudron féminine qui est encore plus, on va dire, à l'intérieur de ce chaudron du noyau de notre vitalité, on va dire, qu'on a tout le monde. Hein, donc, le chaudron féminine, elle est spécifiquement féminine. Que les femmes qui l'ont, et puis les hommes, ils ont leur chaudron aussi. Hein, donc, c'est vraiment le chaudron en lien avec, on va dire, les sources hein, de notre énergie sexuelle. Particulièrement féminine pour les femmes et puis pour les hommes aussi, ils font leur travail aussi dans leur chaudron.
Est-ce qu'il y a certaines de ces pratiques qui sont vraiment des pratiques un peu phares que tu pourrais partager avec celles qui nous écoutent pour commencer ce chemin intérieur justement de réharmonisation?
Oui, ok. Donc concrètement, voilà, donc ce chaudron déjà de notre énergie vitale. Hein, donc déjà, une des premières pratiques pour apprendre à relier notre mental qui a tendance à se disperser un peu dans tous les sens, hein, et notre corps bah, qui demande juste qu'on prend soin de lui, hein, c'est de pratiquer ce qu'on appelle le sourire intérieur, ou hein, on peut aussi l'appeler juste l'attention ouverte, hein, la méditation hein, de l'attention ouverte, de poser un regard souriant, bienveillant, à l'intérieur de son cœur, à l'intérieur de son chaudron vital dans le bas-ventre. Et de passer un temps à juste poser notre attention, respirer et chauffer tranquillement notre chaudron, rien que par le fait que bah, on prête de l'attention à cet endroit de nous-mêmes. Ça, c'est vraiment la première pratique à mettre en place, qu'on appelle le sourire intérieur, par exemple, voilà, ou juste l'attention ouverte, où on recentre notre mental dans notre corps, et le fait de les relier ensemble, ça va générer de la conscience, ça va générer de l'énergie, du chi. Et surtout quand on ajoute une pratique respiratoire comme un exercice où on va inspirer par les narines, troisième œil, enfin tu vois, toute la voie respiratoire en haut du corps. Et on va essayer d'amener le souffle jusqu'en bas, jusque dans le ventre, hein, sur l'inspire et sur l'expire, on va expirer dans le ventre, dans le même endroit, hein, dans lequel on pose notre regard, derrière le nombril. Donc spécifiquement, si on compte, hein, vous mettez deux, trois doigts sous votre nombril et vous appuyez un tout petit peu avec vos doigts et vous allez juste amener votre inspire pour que vous sentez, ça y est, ça gonfle un tout petit peu sous vos doigts. Et ce qu'on vous expirez par les narines, hein, vous expirez dans cet espace sous vos doigts, juste, hein, sous votre nombril, à l'intérieur de votre corps. Et vous faites ça deux, trois fois. Inspire, on remplit. Et on amène la luminosité qui passe par nos paupières. Voilà, juste luminosité ambiante déjà autour de nous. On respire la légèreté et on amène cette luminosité, cette légèreté, hein, ce regard souriant ou au moins juste bienveillant à l'intérieur de notre ventre. On le dépose dedans. Et on expire dedans. Et on focalise notre attention quelques instants dans cet espace, tout au centre, hein, de notre bas-ventre, jusqu'à ce que ça devient chaud, détendu, un peu plus ample, plus posé dans la terre, plus posé dans nos appuis, qui nous soutiennent dans la terre-mère. On commence à sentir, ça y est, on enracine notre mental, vers le centre de nous-mêmes. Et petit à petit, le centre de nous-mêmes bénéficie de cette conscience qu'on est en train de poser dedans. Et ça commence à chauffer, ça devient plus léger à l'intérieur, plus chaud, plus doux. Et donc, on respire avec cette complicité que nous pouvons avoir avec ce centre dans notre ventre. Et plus ça devient chaud et doux et détendu, mieux déjà, on va pouvoir apaiser nos pensées, apaiser notre état émotionnel. On se recentre dans un calme, hein, comme si on se pose dans l'œil du cyclone. L'œil qui est tout au calme, tout au centre de tout ce qui bouge autour. Même si ça bouge, il n'y a pas de souci. Voilà, on reste calmement posé dans le milieu de tout ça. Et on regarde tourner autour de nous tout ce qui doit bouger. Et on cultive cet espace de calme, de chaud, de doux, cet espace bienveillant à l'intérieur de soi. Voilà, donc rien que ça, déjà, de faire ça régulièrement, on peut. On réunifie notre yin et notre yang. Donc il y a vraiment un équilibre intérieur qui commence à s'installer au jour le jour, chaque fois qu'on prend ce petit instant avec soi. Vraiment sentir, ça y est, son énergie se recentre, se re-enracine à l'intérieur. Et comme ça, quand on ouvre les yeux, voilà, on sent que, y a peut-être, on voit les couleurs de façon un peu plus vif, voilà, on entend mieux, on est plus disponible, et on est plus présent, on est plus vraiment dans une pleine conscience, pas que dans notre tête, pas que dans notre corps, on est dans le corps conscient. Et du coup, on est beaucoup plus disponible pour tout ce qu'on a besoin de faire dans l'instant présent. Voilà, une première petite pratique.
Waouh, merci beaucoup. Et le livre Déesse du Tao en est inondé de ces petites pratiques. J'ai pas encore tout fait et à chaque fois que je l'ouvre, je me dis, mais tiens, mais ça, j'avais pas vu. Donc, je me réjouis de continuer à le découvrir. Est-ce que tu pourrais nous emmener dans un voyage à travers donc les cinq saisons, je crois qu'il y a dans la philosophie taoïste, pour donner peut-être des petits conseils à chaque saison. Alors, je sais que c'est très très riche, hein, je n'ai pas forcément envie qu'on prenne tout le podcast pour ça, mais de donner quelques conseils pour les femmes qui nous écoutent pour peut-être prendre soin d'elles à travers chaque saison.
Oui, bien sûr. Donc voilà. Donc à partir de ce centre-là qu'on vient de évoquer, hein, donc c'est un petit peu comme là, on est au milieu du mouvement de la roue des saisons. Hein, c'est un petit peu, on appelle ça, enfin la saison Terre, c'est le moment où on revient dans notre centre. Donc, c'est la saison Terre, c'est le cinquième saison, en quelque sorte, hein, qui est le plaque tournant des quatre autres saisons. Hein, comme on a, ben, là, on est en plein, actuellement, en train de faire la charnière entre l'hiver et le printemps. Hein, donc, on a la saison de l'hiver, le printemps, ensuite l'été, et ensuite l'automne. Hein, donc, en gros, il y a les quatre grandes saisons, mais il y a les intersaisons, les transitions entre, et donc, on attribue à la saison Terre, par exemple. C'est le moment où on revient vraiment dans son centre avant de enquiller sur la saison suivante. Donc ça, déjà, une première conseil, c'est que dès qu'il y a une transition de saison, prenez du temps. Hein. Donc normalement, dans le calendrier taoïste, on a vraiment, c'est mesuré exactement tous les 72 jours. On a une saison, hein, qui bouge vers l'autre, et puis on a une quinzaine de jours entre qui se superposent, où c'est le moment de revenir cultiver la saison Terre. Fameuse intersaison du recueillement, de revenir dans son centre, de suivre son propre rythme autant que possible. Voilà, sans trop de contraintes, pour justement veiller à ce que le système immunitaire reste suffisamment fort pour encaisser le changement. Voilà, donc là, comme on est justement dans une saison un petit peu de phase transitoire, comme ça, on est dans une saison Terre actuellement, entre l'hiver et le printemps. Donc, on va dire que. On se prépare là, donc peut-être on commence quand même par le printemps parce que hein, c'est l'énergie la plus jaillissante. Donc là, au printemps, comme ça, c'est l'énergie qui est en train de, comme la sève hein, des arbres qui est en train de monter, les bourgeons, donc c'est une énergie très extériorisée et foisonnant et dynamisant. Donc ça, c'est le bon côté. Tout le monde sent, je pense, que voilà, on a un peu plus d'élan, on se réveille un peu plus tôt le matin, on a envie de plus de choses vis-à-vis de l'hiver. On a, ah tiens, il y a ce projet, tiens, voilà, oh, ça sera bien que je commence à me faire ça. Hein, on a le libido aussi qui remonte un petit peu plus que d'habitude. Voilà, il y a vraiment ce jeune yang, on dit, hein, le jeune yang du printemps qui arrive. Donc c'est un moment propice pour justement, dès qu'on se lève le matin, d'aller faire une mini-marche, tu vois, même sans, tu vois, si tu sors du lit, tu fais rien, toi tu manges pas, tu fais rien, juste hop, tu sors de toi, si c'est faisable. Hein. Tu fais une petite marche, 10 minutes, aérée, tu swings tes bras, tu fais des grandes respirations pour alléger, dynamiser et mettre votre foie, hein, parce que le foie et la vésicule biliaire, ce sont les deux organes en lien avec le printemps, parce que ce sont aussi hein, les organes, on va dire, le plus dynamisant dans notre corps, qui propulsent plein de sang, plein de liquide à travers tout le corps. C'est eux qui régissent tout le retour veineux, donc. Ils ont beaucoup de travail, donc leur donner un petit coup de pouce avec une petite marche dynamique tout de suite dès le sortie du lit, et puis hop, vous revenez, et tranquillement, ben, vous commencez votre journée, vous buvez de l'eau chaude. On dit toujours de boire un ou deux tasses d'eau chaude, à jeun, si c'est faisable, en préparant votre petit déj. Hein, vous le faites bien, voilà, peut-être 20 minutes avant de manger, vous buvez hein, ces deux tasses d'eau chaude pour soutenir votre foie, justement, tout ce qui pompe les liquides dans votre corps. Pour soutenir la lymphe, et ensuite vous mangez. Bon, après, voilà, je peux parler un petit peu de la nourriture, mais c'est vrai que dans le Tao, on essaye de bien manger le matin, justement, pour que ça donne l'apport dont le corps y aura besoin pour toute la journée. Donc, on essaie de que ce soit une bonne porridge chaud, voilà, avec plein de graines, de céréales, d'oléagineux, même des protéines, enfin, tout ce que vous voulez mettre dedans, avec des petites épices, enfin, tout ce qui est très goûteux, très nourrissant. Hein, dès le matin, et puis on va qu'à nos affaires, etc. Et puis on va essayer de faire quand même des étirements dans la journée. L'énergie du printemps, hein, l'énergie du foie, il a besoin de étirer. Donc, soit réservez un moment dans l'après-midi ou en soirée quand vous rentrez du travail, selon ce que vous avez à faire. Si vous avez le temps de le faire dès le matin, tant mieux. Mais sinon, vous pouvez le faire en rentrant et de faire vraiment des étirements tendineux. Hein. Donc, on allonge les jambes, les bras, on cherche les fascias, en fait, les insertions au niveau articulaire. Et vous essayez d'écarter toutes les petites articulations dans votre corps, de votre colonne, de vos côtes, de hein, tous les membres. Et de respirer dans vos tendons. C'est les tendons, c'est ce qui raccorde vos muscles à vos os. Donc, c'est comme si on est dans une enveloppe et on a étiré notre enveloppe et puis relâché un petit peu, comme un élastique qui s'étire et puis on relâche. Et on respire lentement, amplement avec ces étirements pour compresser, aider le foie justement à compresser les vaisseaux sanguins et aider la circulation de tous les liquides dans le corps pour qu'ils se propulsent. Voilà, donc ça c'est en gros, c'est quelque chose d'assez simple, je pense que tout le monde peut le mettre en place, avec voilà tout le, une vie normale, on va dire, quotidienne, hein, pour que le soir, hein, vous avez bien étiré avant de dormir, parce que ça va aider justement à évacuer les tensions de la journée, remettre votre énergie vitale en route pour que vous dormez bien, et de se coucher si possible avant 10 heures le soir, hein, avant l'heure de la vésicule biliaire qui démarre à 11 heures. Il vaut mieux être en train de dormir pour que la vésicule biliaire et le foie puissent vraiment être en mode rechargement pendant ces heures-là. Si on se couche trop tard, c'est comme si notre foie et notre vésicule biliaire ne peuvent pas se recharger comme il faut et on va avoir des problèmes, hein, comme beaucoup de gens, hein, les allergies, ça vient. Là, il y a de plus en plus de gens qui ont des allergies en ce moment parce que c'est le foie qui est surchargé ou hein, les problèmes de vertige. Hein, des problèmes d'insomnie, des raideurs, des douleurs dans les articulations, des sensations de nausée ou de un peu de indigestion. Hein, tu vois, quand on a du mal, on se sent un peu lourde, fatiguée. Voilà, tout ça montre que le foie, il est intoxiqué. Donc, pour lui donner un coup de pouce, il faut déjà, rien qu'avec juste l'hygiène de vie, hein, de lui stimuler un petit peu. Et de le soutenir suffisamment quand même par une bonne nourriture hein, et par suffisamment d'exercices physiques, d'étirement, de respiration, de marche. Il a besoin de ce dynamisme pour se désintoxiquer. Et après, il y a le son du foie qu'on peut faire aussi. Hein, c'est un son du vent qui caresse les feuillages. Donc, hein, si vous pouvez aussi juste chauffer vos mains, très très chaud, et puis vous mettez vos mains toutes chaudes sur votre foie. Et puis vous envoyez le son du foie tu vois, comme le vent qui souffle dans les feuillages, et tu souffles dans ton foie. Tu regardes ton foie intérieurement, tu lui souris, et tu dis bonjour mon petit foie, hein, et tu le visualises comme une forêt printanière en train de bourgeonner, et tu envoies le son CH, hein, c'est un son, c'est très juteux, ça fait venir un peu la salive dans la bouche. Et tu enveloppes ton foie avec une belle lumière verte printanière. Et tu vas balader dans la forêt de votre foie, hein, jusqu'à sentir, ah voilà, il commence à se détendre, il commence à se aérer à l'intérieur, hein, il devient de plus en plus souple. Et on va évacuer petit à petit le trop-plein vers la terre, hein, de recycler dans la terre les colères ou les frustrations ou les énervements quelconques, tout ce qui peut bloquer notre énergie. On le rend doucement, hein, avec beaucoup de gratitude à la terre pour être recyclé. La terre-mère, elle est là pour ça. Elle prend, hein, ce dont nous, on n'a plus besoin. Et pour elle, c'est de la nourriture. Elle va prendre cette énergie qui est pour nous négative, mais pour elle, c'est juste de l'énergie. Et puis, elle va le transformer en énergie positive. Elle va nous le rendre. Donc, plus on lâche prise, hein, sur nos lourdeurs, nos tensions qu'on peut avoir dans le foie ou n'importe où dans le corps. On continue juste. On accueille, hein, tout ce qui va pas et on le guide jusqu'à la terre. On lâche prise et plus on lâche prise, plus ça crée de l'espace nouvel à l'intérieur de nous, à l'intérieur de nos organes. Il y a vraiment une libération au niveau de nos organes qui s'opère et cette nouvel espace va accueillir davantage de lumière verte, davantage d'énergie printanière, d'énergie positive. Et on dit que l'énergie psychique, hein, de notre foi, c'est la générosité, hein, la tendresse, vraiment une souplesse, une créativité, un élan dynamique qui nous permet d'être très créative en fait. Hein, donc souvent on croit qu'on est frustré, en colère, hein, alors que c'est peut-être une bonne chose. En fait, c'est juste notre énergie créative qui a envie de s'exprimer. Et si on l'empêche, ben il se frustre. Donc des fois, il faut juste aller le voir, dire bonjour ma petite énergie créatrice, je te vois. Donc plutôt que de te frustrer, je vais te laisser me dire qu'est-ce que tu aurais besoin, de quoi tu aurais aimé que je fasse là. Donc peut-être que, bah oui, c'est d'aller faire un peu de la danse ou aller grimper une montagne ou aller dessiner quelque chose qui nous tient à cœur ou aller passer du temps avec un être cher qu'on n'a pas vu ou quelque chose qui nous aide à libérer notre énergie créatrice. Et aussitôt, on se sent mieux dans notre corps, dans notre foie. Donc, c'est important de écouter ses organes, de créer vraiment un lien avec ses organes en lien avec les saisons. Donc là, ça c'est pendant le printemps. On passe du temps avec son foie et sa vésicule biliaire.
C'est super intéressant.
Vois, et on draine, hein, on laisse drainer. Voilà.
Est-ce que tu penses qu'on peut avancer un petit peu dans les saisons?
Oui, bien sûr. Donc là, c'était juste pour donner un peu un exemple un peu large, là, parce qu'on est en plein dedans. Donc, maintenant qu'on comprend plus ou moins le principe, on peut transposer le même principe. Donc, en été, ça va être le cœur. Le cœur et l'intestin grêle, ce sont les deux organes feu dans notre corps. Hein, c'est ce qui elle s'arrête jamais. Elle propulse le sang en permanence. Hein, donc, c'est le grand yang, comme le soleil. Elle n'arrête jamais de briller. Elle a toujours sa lumière, sa chaleur, son élan d'amour. Donc, c'est dans cette saison-là où on va effectivement, bon, naturellement, on est plus porté à aller voir plein de choses, aller être beaucoup plus à l'extérieur, les longues journées, on peut être très actif, mais on va protéger notre yang, protéger notre cœur pour pas trop qu'il s'emballe, et surtout contre un excès de chaleur autour de nous, encore qu'il y a de plus en plus de chaleur maintenant, voilà, surtout en France. Donc il faut protéger notre yang, parce que plus il fait chaud dehors, plus ça pompe notre yang en dehors de notre corps. Et en fait, ça nous épuise, et on perd notre feu interne. Parce que tout notre feu part à l'extérieur. Il est aspiré par la chaleur extérieure. Donc c'est comme ça, on voit aussi dans tous les pays vraiment chauds, on passe notre temps à boire chaud, à manger chaud, pour et manger un petit peu épicé aussi, pour restituer notre feu interne, même pendant l'été. Donc de faire attention aussi, tu vois, de pas trop refroidir notre feu interne. Donc on peut rafraîchir, hein, aller se baigner. Enfin, évidemment, on va passer chercher l'ombre, hein, rester dans le frais, c'est ce qui est le mieux. Mais de faire attention et pas perdre notre chaleur interne. Donc ça aussi, c'est important. Et donc c'est là effectivement, on va faire le sur intérieur dans notre cœur, utiliser le son du cœur, hein, de réchauffer notre cœur doucement et de cultiver une énergie de joie, d'amour. Mais vers l'intérieur aussi, vers soi, hein, vers son soi intérieur. Parce qu'on est effectivement très porté vers l'extérieur en général dans l'été, et pouf, on ne dort plus, on fait tout à tout azimut, et puis pouf, après tout notre yang, tout notre feu, ben, il est piégé en haut du corps, hein, et on a la tête toute chaude, toute rouge, on a des palpitations dans le cœur, on n'arrive plus à respirer, on transpire comme un bœuf, et on est épuisé. Donc beaucoup de gens tombent dans ce piège-là, ça montre qu'ils n'ont pas assez protégé leur yang. C'est-à-dire garder le yang dans leur dantian, dans leur centre, tu vois, dans leur chaudron, là où est sa place. Donc on va faire des gestes de balayage, hein. On prend les mains et on va, avec le son du cœur, on va envoyer le feu vers le bas, vers le centre. Recentrer notre feu dans le chaudron pour chauffer la braise intérieure. Et justement, comme ça, en fait, on ne devient pas tout rouge, on n'a plus des palpations, on est frais en fait. En haut du corps, on rafraîchit notre corps et on garde un bon petit feu dans le ventre. Voilà, là on en a besoin. Donc ça c'est en été, c'est énergétiquement, c'est bien de faire ça. Ouais.
Wow, ouais, super. C'est vrai que l'été, on a très envie de prendre des douches froides, d'être constamment avec du froid, mais au final, j'imagine que ça peut aussi ne pas être forcément très bénéfique à notre feu intérieur qu'il faut savoir un peu dompter, entre guillemets.
Oui, bah, il ne faut pas éteindre le feu non plus, quoi, tu vois. Et donc, surtout en été, quand le feu est très extrême, voilà, on va surchauffer, forcément, on surchauffe. Et donc, on n'a qu'une envie, c'est voilà, mettre la clim à fond, se mettre dans une bain glacée, ou enfin, tu vois, d'aller nager dans une bain glacée, ou enfin, voilà. Et donc, voilà, il faut juste faire attention. On peut faire une ventilation interne, rien que par ce geste, et tu vois, juste respirer vers le bas et rafraîchir notre corps par l'intérieur, en fait. On allume notre clim interne. Et on peut faire beaucoup mieux face à la chaleur de l'été. Et donc, du coup, voilà, aussi manger de façon plus léger, évidemment. Voilà, des choses frais, les salades, les crudités, les fruits, enfin, ce genre de choses. Bien sûr, ça nous rafraîchit aussi. Donc, ça aide à faire face à la chaleur. Mais de ne pas oublier de boire chaud de temps en temps, de manger chaud de temps en temps quand même aussi, pour restituer la substance à notre corps. Et donc pareil, en automne, hein, quand ça commence à vraiment refroidir, hein, les feuilles tombent, là c'est vraiment le moment de l'épuration, on va dire, le dépouillement, hein, donc le froid qui commence à arriver. Donc si on a bien emmagasiné notre chaleur pendant l'été, hein, de vraiment, on va dire, il faut que la chaleur rentre jusque dans nos os, dans la moelle de nos os, comme on voit les lézards, tu vois, il faut lézarder beaucoup pendant l'été, et juste emmagasiner beaucoup, beaucoup, toute cette chaleur à l'intérieur de vous. Donc comme ça, à l'automne, ben, on est prêt pour le froid. Hein. On a déjà notre chaleur interne, donc même s'il fait froid dehors, on va être beaucoup moins susceptible à attraper des rhumes, ou enfin à se faire déstabiliser. Le froid, il ne va pas rentrer dans notre corps, parce qu'on aura suffisamment de chaud à l'intérieur. Et donc, c'est le moment, effectivement, où on fait plutôt des exercices, où on tape beaucoup, hein, on fait des tapotements, hein, pour faire vibrer, hein, juste avec la main très, très détendue. On laisse tomber tranquillement l'ensemble de la main pour créer une petite vibration au niveau de nos fascias, pour faire vibrer, hein, tous les tissus dans le corps, vibrer les liquides. Et donc ça va stimuler nos défenses, notre couche énergétique à la surface de notre corps, au niveau de la peau. Et on appelle ça le Wei Qi, notre Qi protecteur. Et le fait de faire des petits tapotements, hein, ça va extérioriser notre énergie à la surface de la peau, comme un bouclier de protection. Et donc ça empêche ce que le froid rentre, par exemple.
Ok, j'adore, je vais faire à l'automne ce petit mouvement.
Ouais. Ah oui, ça c'est très très bénéfique, et puis, hein, et donc tout en respirant, on imagine, au début, voilà, c'est un peu une imagination, mais petit à petit, une fois qu'on sait ce que c'est le chi, enfin, l'énergie vitale, quand on commence à vraiment le ressentir, hein, tu amènes le chi, tu inspires cette énergie, ou enfin le prana, ou enfin, tel qu'on peut l'appeler, et on va littéralement le respirer à travers les pores de la peau. Hein, de dilater les pores de la peau, contracter les pores de la peau à tour de rôle avec chaque respiration pour tonifier justement notre plus grand organe, mais c'est celui de la peau, hein, qu'on attribue. Donc c'est l'élément métal en automne, hein, c'est la peau, les poumons, le gros intestin. Hein, c'est les trois organes métal qu'on va soigner particulièrement pendant cette saison-là. Et quand on arrive à sentir, ah oui, tu vois, on fait beaucoup de choses aussi, les bains de peau, tu vois, on frotte pour, tu vois, enlever les cellules mortes de la peau, comment on appelle ça, exfoliantes, hein, on exfolie, on fait des bains de vapeur, on fait plein de choses pour purifier notre peau, purifier nos intestins, purifier toute la voie respiratoire, hein, pour que justement les bactéries, ben, ils s'évacuent. Et on renforce notre immunité justement à ce moment-là avec des exercices respiratoires un peu plus poussés que le reste de l'année. Là, on va faire, par exemple, hein, on serre fort le périnée, on va inspirer très fort et on gonfle à bloc tout le corps, hein, tous les voies respiratoires, au niveau du thorax, au niveau du diaphragme, au niveau du ventre. On garde un petit apnée plein, on va tapoter justement, faire ce petit tapotement en apnée plein exprès, comme un pneu qui se gonfle, et on tapote pour renforcer la pression. Et puis on va expirer avec le son des poumons. Hein, c'est comme freiner le souffle pour que pas qu'on expire trop vite. Et on garde l'énergie vitale, on garde le chi dans notre corps, dans les pores de la peau. Et en fait, ça va renforcer l'organe, hein, de la peau qui nous protège, et ça va renforcer notre bouclier protecteur. Par exemple, c'est un petit exercice très simple que vous pouvez mettre en place.
Tellement de petites pratiques comme ça, de petits rituels qu'on peut appliquer.
Tout à fait. Et puis, ben, en hiver, on hiberne. L'hiver, c'est l'élément eau. Hein, c'est le moment de plonger dans ses reins, dans ses organes sexuels, dans sa profondeur, dans sa sensualité. On reste sous la couette et on dort autant qu'on peut. Hein, c'est la meilleure chose à faire, c'est dormir, reposer, rester au chaud. Et puis, hein, faire ce qu'on appelle la respiration des os. Et on plonge dans une relaxation très profonde et on laisse fondre nos os. Et on baigne dans un bain de chaleur dans nos os, et on reconstitue en fait la moelle de nos os pour que, voilà, ils deviennent de plus en plus remplis, on va dire, d'énergie, de réserve. Et comme ça, ben, au moment du printemps, ben, on aura de quoi dynamiser. Et on a fait le tour.
Et toutes ces pratiques, elles sont dans le livre. Si les gens qui nous écoutent ont envie de les revoir en détaillé, j'ai fait aussi la méditation sur les os pendant l'hiver. J'ai beaucoup aimé.
Ah, super.
Tu en as parlé un petit peu déjà par rapport à nos émotions et la gestion de nos émotions. Quels sont les outils que nous propose le Tao par rapport à ça ? Tu as parlé voilà, du son, des organes. Comment ça marche tout ça ?
Et oui, parce que c'est la même chose en fait. Nos émotions, ils font partie, c'est comme nos saisons intérieures. Et donc, ils sont reliés avec nos organes en lien avec chaque saison. Hein, donc, on peut dire ben, en hiver, ben, ça va être la peur, tout ce qui vient des profondeurs, hein, les traumatismes, les mémoires profondes, ancestrales, tout ce qui est transgénérationnel, ça va être dans le domaine de nos reins. Hein. Symboliquement, mais aussi vraiment physiologiquement. C'est vraiment cellulaire, c'est vraiment notre mémoire cellulaire. Donc, quand on passe du temps à pratiquer cette respiration dans nos os, à nous détendre profondément, amener de la chaleur dans nos os, hein, on recharge nos réserves et on amène beaucoup d'un vrai soutien, quoi, une vraie énergie positive en lien avec cet élément eau qui est très douce, très fluide. Et donc, ça va nous aider à transmuter, en fait, petit à petit, à faire fondre, à rassurer nos peurs, parce qu'on génère un tel climat fluide, agréable, à l'écoute hein, de nous-mêmes, que ben, les émotions qui sont enfouies cellulairement, parce que dans le Tao, on dit que les émotions, elles vivent vraiment dans nos organes, dans notre matière hein, corporelle, on va les équilibrer grâce à cette énergie positive que nous cultivons dans le corps, déjà. Et c'est déjà, à la base, c'est la meilleure façon, en fait, de faire face à nos émotions, c'est de revenir dans nos sensations corporelles, d'apprivoiser ces sensations en les reliant avec une énergie naturelle, saine, hein, qui est lumineuse, enfin, qui nous parle, comme l'océan, par exemple, ou le lagon, ou voilà, une rivière, enfin, quelque chose qui nous parle, hein, une source d'eau hein, qui nous rassure, qui nous met tout de suite au contact d'une douceur, fluidité intérieure. Et grâce à cette connexion, on va aller visiter les émotions qui sont plus difficiles pour nous et les envelopper, les laisser voilà, vraiment flotter dans ce bain d'énergie positive que nous cultivons. On les accueille pleinement jusque, ben oui, je te vois, ma peur, oui, je te prends dans mes bras, comme un enfant un petit peu, on prend dans nos bras hein, et on le rassure, on lui donne tout notre amour, toute notre bienveillance. Et petit à petit, au contact de ce bain d'amour quoi, qu'il est en train de recevoir, notre énergie de peur, petit à petit, ben, il a de moins en moins de raison d'être parce qu'il est rassuré, il est ancré dans quelque chose de beaucoup plus soutenant. Et donc, on peut petit à petit laisser la peur se transformer en davantage de douceur et en davantage de force tranquille, en fait, de force intérieure, par exemple. Donc c'est vraiment la transformation de nos émotions soi-disant négatives, c'est juste des parts de nous-mêmes, des parts d'ombre de nous qui ont besoin qu'on les éclaire, qui ont besoin qu'on les prend en compte, qu'on les prend en main. Et à partir du moment qu'on les voit pleinement, qu'on les accueille pleinement, ben, déjà, rien que ça, c'est déjà magique. Rien que par le sourire intérieur, hein, juste on pose notre regard bienveillant dans un endroit de notre corps, on amène l'énergie de notre émotion dans cet espace de notre corps, là où on sent cette émotion, peut-être qu'on a une boule au ventre par exemple, tu vois, ah j'ai le boule au ventre, ok je souris dans mon boule au ventre, ça veut dire juste je pose mon attention bienveillante dans ce boule que j'ai dans mon ventre et je dis alors, je parle avec ce boule quoi, je dis alors comment tu es, comment ça va aujourd'hui, bah oui je suis pas content, voilà ça me fait ça et ça me fait ça et tu discutes avec tranquillement, voilà, de façon instinctive quoi. Et hein, juste le fait de chauffer vos mains, de mettre la chaleur de vos mains et d'envelopper avec la lumière, avec la saison, enfin voilà, s'il y a un rapport avec une saison ou un organe peut-être, ou peut-être pas, voilà, juste vous posez votre attention bienveillante et vous prenez le temps de passer du temps avec, tu donnes de l'amour, c'est la présence en fait, juste tu amènes de la présence et petit à petit ton boule au ventre, il se dissout, il n'a plus de raison d'être. Il se transforme en davantage d'énergie de présence parce que tu maintiens la présence et donc juste il a qu'une envie, c'est d'être présent aussi. Voilà, et donc tu apprivoises petit à petit tout ce qui nous déracine de cet état fondamental hein, d'être bien dans notre centre. Ben, on reconnecte avec notre centre et on reste présent avec tout ce qui est non connecté avec notre centre, en nous, et à force petit à petit, ben, tout va revenir dans notre centre, de toute façon. Tout va revenir à un état de bienveillance et d'amour et de présence. Juste par la force de rester là, quoi. Par son intention. Et on peut faire ça au fil de saison, au fil, hein, donc chaque saison, chaque organe a sa catégorie, on va dire, de type d'émotion qu'il va avoir. Parce qu'en hiver, c'est quoi? C'est la profondeur. Donc forcément, ben, la profondeur, c'est tout ce qui est de l'ordre de notre inconscient. Donc tout ce qui est de l'ordre de notre inconscient, ben, c'est nos mémoires anciennes. Donc forcément, ça va être surtout les peurs, les choses très viscérales, hein, très ancestrales. En général, qui remonte, ou même de notre propre enfance, de notre propre histoire de vie, c'est en lien avec nos reins. Donc, cette profondeur, on l'apprivoise, mais avec beaucoup de douceur, tu vois, beaucoup de fluidité. Et petit à petit, on nettoie et on évacue toujours vers la terre-mère, on lui donne tout ce dont on n'a plus besoin, elle transforme tout cela pour nous, et elle nous le renvoie en énergie renouvelée, qu'on peut utiliser pour nourrir notre état de présence, justement. Plus en plus présent à nous-mêmes et puis à les parties, on va dire, voilà, ancrées de nous-mêmes pour que les parties plus émotionnelles, enfin les émotions soient et sont positives. Hein, donc voilà, comme j'ai dit, le printemps, c'est la colère. Des fois, c'est une bonne colère, on en a besoin aussi. C'est juste une question d'équilibrer avec suffisamment aussi de générosité, d'élan créatif, hein, pour pas que ça prenne le dessus. Voilà. Et on vit avec au jour le jour, on reste présent à nos émotions. Et on les guide, hein, petit à petit, de plus en plus, vers notre état tel qu'on est quand on est centré dans son chaudron. Et puis pareil pour le cœur, pour la rate, pour les poumons, voilà, ils ont chacun leurs émotions, leur façon d'être.
Ça permet aussi une certaine connaissance de soi, je suppose, et un temps d'introspection personnelle, de réflexion personnelle pour accueillir ces parties plus subtiles de nous-mêmes aussi.
Oui, tout à fait. Eh oui, quand on passe ce temps précieux à écouter en fait ce qui se passe à l'intérieur de soi, bah du coup on est beaucoup plus disponible aussi aux autres et on peut mieux le faire aussi dans nos relations avec les autres. Surtout voilà, si on a des enfants, bah on va de mieux en mieux à l'écoute. Ça va de moins en moins partir en vrille parce qu'on saura déjà comment est-ce que nous on fonctionne. On va pouvoir voir déjà d'avance. Ah, je sens que là on va appuyer sur des boutons là et donc avant qu'on appuie sur mes boutons. Hop, je vais revenir dans mon centre, je vais faire en sorte à ce qu'on ne va pas en arriver là. Et puis, en tant que parent, ben, plus on reste dans son propre centre, plus nos enfants, par imitation, ils vont aussi rester de plus en plus dans leur propre centre, ils vont apprendre. Hein. Et donc, petit à petit, on peut avoir des relations, même dans une famille, ou en couple, ou au bureau, enfin n'importe quelle équipe. S'il y en a un qui arrive à faire ce travail de connaissance de soi, en quelque sorte, c'est ça, oui, hein, de cultiver son ancrage, son centrage, ben ça va avoir un effet sur toutes les personnes avec lesquelles on est en contact. Ouais. Donc ça vaut le coup.
Oui, ça vaut le coup. Et cette philosophie, elle est vraiment très complète, notamment pour l'accompagnement de la connaissance de nous-mêmes en tant que femmes. Et dans le livre, il y a toute une partie autour justement de l'énergie sexuelle.
Oui.
Avec des pratiques qui sont liées à cela. Alors, on ne va pas rentrer dans tout, mais il y en a une que j'ai essayée il n'y a pas longtemps, que j'ai trouvée absolument fantastique. Si tu peux nous en parler, nous expliquer le concept autour de ça, c'est en fait le fait de prendre soin de nos seins. C'est quelque chose qu'on parle si peu dans notre société et je trouve ça juste génial que le livre et la philosophie finalement nous expliquent comment avoir des seins en bonne santé et qu'est-ce que c'est finalement avoir des seins en bonne santé.
Ah bah c'est génial. Mais oui, bah c'est vrai que bah, comme je disais, là, comme on fait le tour des saisons, on fait le tour de nos organes, bah, de toutes les parties de nous, bah, donc voilà, ça inclut forcément nos organes sexuels féminine, hein, pour les femmes et puis pour les hommes aussi, pareil pour eux. Donc, hein, nos seins font partie intégrale de notre corps et aussi il y a des glandes à l'intérieur qui sont extrêmement importantes pour notre équilibre hormonal, hein, parce qu'ils sont reliés avec le thyroïde, les glandes pinéales, l'hypothalamus, enfin, dans le cerveau, dans la gorge, la poitrine, notre pancréas, nos surrénales au niveau digestif, et puis hein, nos organes sexuels, nos glandes sexuelles au niveau de nos ovaires. Donc c'est une chaîne en fait hormonale dont les seins font partie aussi, Et je pense que toutes les femmes le ressentent au moment de l'allaitement, enfin pour ceux qui ont allaité, je veux dire, hein, on sent qu'il se passe quelque chose, que quand il y a le tétée, c'est pas que le tétée, hein, dès qu'il y a cette stimulation de nos seins, on sent que ça bouge aussi dans l'utérus, ça bouge aussi dans la gorge, ça bouge même dans le cerveau. Il y a tout un bain hormonal qui se libère. Hein, avec tous les oxytocines, enfin voilà, c'est souvent, hein, beaucoup de femmes qui parlent de ça, enfin c'est une extase presque qui se libère dans tout le corps, hein, une extase biochimique en fait, qui se déclenche au moment qu'on stimule, hein, la pointe des seins. Et donc on est câblé pour ça. Donc déjà il y a ça à savoir. Donc quand on va prendre soin de nos seins, en fait on prend soin de ce processus-là de libération des hormones, hein, de bonheur en fait, à travers toutes nos cellules. Nos seins sont des grandes sources d'énergie vitale et de sécrétion hormonale insoupçonnée. Donc si on a accès à ces sources-là, on apprivoise tranquillement, avec déjà une méditation, juste on médite dans nos seins, on les envoie notre sourire, notre bienveillance, hein, on peut frotter nos mains, encore une fois, générer une petite chaleur dans nos mains, bienveillant, juste de poser vos mains sur votre sein et de sourire dans vos seins, de juste avoir un sentiment de gratitude envers vos seins, de dire waouh, oui, merci d'être là. Hein, de faire part de ma féminité, hein, de faire part des sensations aussi que je peux avoir. Hein, donc voilà, il y a des femmes qui ont des seins très sensibles, il y en a des femmes qui ont très peu de sensibilité dans leurs seins aussi. Donc voilà, dans les deux cas, hein, on peut quand même apprivoiser et progressivement, juste par la présence de la chaleur de nos mains, la présence de notre regard bienveillant. Et donc, si possible aussi, après le bain ou la douche, on met un peu de l'huile et on masse vraiment très délicatement, avec beaucoup de lenteur, beaucoup de tendresse, tout l'espace de nos seins. Hein, donc il y a bien sûr toutes les techniques, hein, on contourne nos seins avec des spirales, avec des huîtres, avec, hein, des caresses, hein, assez spécifiques qui va guider l'énergie depuis la partie plus volumineuse de nos seins, de volupteux de nos seins, vers la pointe. Et puis on va finir en caressant tout autour de la pointe des seins, les mamelons, exprès pour venir stimuler les sécrétions hormonales au niveau des seins, mais qui sont reliées directement avec les glandes pinéales dans le cerveau, avec les glandes thyroïdes, etc., enfin les surrénales, etc. Voilà. Toutes les glandes, dès qu'on stimule la pointe de nos seins, toutes les glandes se mettent à s'éveiller. Et donc, elles commencent à sécréter et puis à se reconnecter entre elles. Ça, c'est très important pour la santé féminine, parce que souvent, nos glandes sont coupées l'une de l'autre, il n'y a plus de communication, et c'est ça qui engendre les déséquilibres hormonaux. Alors que quand on masse les seins, c'est un peu le trait d'union entre les glandes dans le haut de notre corps avec les glandes en bas de notre corps. Et on crée le trait d'union pour réunifier la chaîne comme une guirlande de fleurs. Je parle souvent des fleurs, comme les glandes sont comme des fleurs avec des pétales qui se déploient et qui se ferment un petit peu, qui respirent. Et donc chaque glande va se éveiller dès qu'on se connecte avec ce toucher, hein, cette connexion avec nos seins, la pointe des seins particulièrement. Et donc on va reconnecter cette chaîne, cette guirlande de fleurs à l'intérieur de nous. Et notre équilibre hormonal se rétablisse progressivement. Rien que par ça, par exemple. Enfin, c'est vraiment un soin qu'on peut se donner. Donc sans parler évidemment du plaisir que ça peut procurer et le bonheur, hein, de se réapproprier justement cette part de soi-même, de sa féminité. Hein, donc même avec des femmes qui ont eu des ablations de seins, hein, donc en lien avec le cancer des seins, hein, c'est jamais trop tard de réapprivoiser. Même, c'est bien de savoir que même s'il y a une part de notre corps qui n'est plus là physiquement, énergétiquement, son corps énergétique, il est encore intact, parfaitement intact. Donc on peut tout à fait travailler avec comme si elle était là. Et ça permet vraiment aussi d'amener une forme de guérison et de passer par un deuil, hein, avec beaucoup plus de sérénité, hein, et accueillir son corps, s'accueillir tel qu'on est, et de quand même éveiller la sensation qu'on peut éprouver à cet endroit, et de voilà, même s'il y a des cicatrices ou quoi que ce soit, on peut les assouplir, on peut les apprivoiser et les réintégrer, hein, dans sa féminité et redevenir entière en tant que femme. C'est, dans tous les cas, c'est une geste important, je dirais, pour toutes les femmes, ouais.
J'adore, c'est une très belle pratique que j'avais vue dans aucun livre avant. Et je sais que les femmes qui m'écoutent prennent note et je pense que voilà, c'est super. Tu as déjà partagé beaucoup, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu aimerais dire aux auditrices qui nous écoutent?
Ah ben voilà, ben c'est, comme c'est surtout des femmes, donc oui, ben peut-être juste de finir en revenant sur le chaudron féminine, enfin sur la part aussi au niveau de l'éveil qu'il y a possible à faire au niveau du bassin, hein, donc l'importance aussi dans le Tao, comme c'est vraiment le réceptacle, on va dire, de notre énergie vitale, c'est important, voilà, donc de prendre soin de ses seins, mais donc aussi par le même biais, de passer du temps à se masser le ventre, assouplir son ventre, assouplir tout l'espace, hein, de son pli de laine, faire des petits massages dès qu'on peut, hein, juste poser la chaleur de ses mains, envoyer le sourire intérieur, hein, c'est-à-dire juste son attention bienveillante, de remercier vos organes féminines, remercier tout votre espace, hein, votre temple féminine, dès que vous pouvez. Je trouve que ça permet les femmes de reconnecter avec notre force de vie intérieure, nos ressources intérieures auxquelles on peut toujours revenir dès qu'on a besoin. Même si au début, voilà, des fois, il y a des sources un peu douloureuses, il peut y avoir plein d'histoires liées avec toute cette zone, mais si on pose de l'amour dessus, et toutes avec des petites séances régulières, hein, des petites pluies d'amour qu'on peut se donner, au fil du temps, on apprivoise cette énergie et on a accès à des sources extraordinaires, insoupçonnées de régénération, de réconciliation avec soi-même, une pluie d'énergie extraordinaire. Donc, et que ma message, surtout pour les femmes d'aujourd'hui, que ce que je cherche à transmettre, c'est qu'on a tout en nous, les femmes. C'est incroyable tout ce qu'on a en nous. Et on est assis sur un volcan. Et donc, quand on prend le temps d'aller vraiment l'apprivoiser, l'explorer avec les pratiques, donc voilà, qu'on fait surtout dans les stages, effectivement, ou dans les cours en ligne, mais voilà, on rentre plus dans les techniques. Mais même au-delà de ça, c'est juste passer ce temps avec vous dans la bienveillance, vos mains posées sur votre ventre, sur votre cœur, à juste, waouh, dire qu'est-ce que c'est un miracle d'être née femme, tu vois, et d'avoir cette ressource à l'intérieur de soi. On peut vraiment, collectivement, en tant que femme, c'est important qu'on le fasse, ça, que chacune entre nous, individuellement, on fait ce chemin en nous, on n'attend pas que ça vienne de l'extérieur, hein, c'est en nous que ça se passe, et plus chacune en s'éveille, ben plus, voilà, collectivement, il va vraiment bouger des choses, quoi, dans le bon sens, et que le monde a vraiment besoin de reconnecter avec son féminin, hein, c'est-à-dire sa capacité d'écoute, sa capacité de cultiver la vie, d'être à l'écoute de la vie, hein, de nourrir la vie. Ça, c'est vraiment urgent en ce moment, je dirais, que c'est vraiment à chaque femme de faire ce petit chemin en nous. Et si on arrive à le faire collectivement, mais c'est merveilleux, la magie qu'on va pouvoir générer pour aller de l'avant et laisser évoluer la planète dans le bon sens. Voilà.
Waouh, merci beaucoup, et je dois dire, tu es un véritable, voilà, une énergie hyper lumineuse, hyper joyeuse, en pleine santé. Je n'ose pas te demander ton âge, mais on voit que vraiment la santé t'accompagne.
Non, donc... j'ai 120 ans, juste.
Ah, c'est ça. Non, mais vraiment, on sent que voilà, tu as gardé cette joie de l'enfance qui je suppose est cultivée à travers toutes ces pratiques aussi. Et merci pour ce message de fin qui est hyper important aussi, je pense, parce que encore dans plein de pays du monde, c'est tellement un fardeau d'être née femme, et il y a beaucoup de « Ah, je suis une femme, donc j'arrive avec tout ce bagage-là », et de remettre ce discours de « C'est merveilleux d'être une femme, et partons en exploration pour voir ce que ça veut dire », je trouve que c'est un nouveau récit narratif qui est vraiment agréable et qui fait du bien à entendre. Donc, merci.
Ouais. Oui, oh bah, je suis très très heureuse avec tout ce que tu fais aussi, c'est merveilleux, vraiment, je te félicite, Anouk.
Merci.
Continue.
Merci beaucoup, Aïcha.
Merci beaucoup.
Un grand merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. De mon côté, je mets en place plein de petites choses que Aïcha a mentionnées dans l'épisode. Bien sûr, le massage des seins que je vous recommande, mais également, là on est au printemps, ce côté déploiement que je pratique le matin, j'aime beaucoup. Et puis j'ai remarqué en effet que mes organes avaient vraiment ces émotions. Par exemple, ce matin, je me suis mis en colère. Ça m'arrive jamais de me mettre en colère. Et là, j'ai vraiment eu un excès de colère. Et je me dis, oui, en fait, on est au printemps. Là, je sens un déséquilibre. Et je sens que mon foie, en fait, est surchargé. Et je trouve ça génial que tous ces épisodes que j'ai enregistrés et les conversations que j'ai pu avoir me permettent aussi d'avoir cette capacité à me comprendre et à comprendre comment mon corps va réagir en fonction de la saison. Voilà, je trouvais ça assez intéressant à partager. Peut-être que vous avez eu des expériences semblables. J'adorerais savoir ce que vous avez le plus apprécié de cet épisode. Quels sont les tips que vous allez mettre en place? N'hésitez pas à venir nous parler avec Aïcha sous le post Instagram de l'épisode. Et puis comme toutes les semaines, les amis, si le podcast vous plaît, si vous appréciez les épisodes et si vous ne l'avez pas encore fait, alors c'est le moment de vous rendre sur l'application Apple Podcast et de me laisser 5 étoiles et un commentaire écrit. That really, really keeps me going. Et je veux vraiment, vraiment remercier les personnes qui ont laissé des commentaires. Je les lis. It warms my heart. Et je me dis, you know, you're doing a good job and that's great. Et ça permet à plus de personnes aussi d'écouter le podcast. Donc ça, c'est trop, trop cool. Je vous souhaite une magnifique journée, soirée, où vous soyez. Et puis, si personne ne te l'a dit aujourd'hui, ma belle, laisse-moi te rappeler que tu es une queen, que tu es puissante, que tu as tout en toi pour éclore et briller et vivre tes rêves et que tout est possible. Encore un grand merci et à la semaine prochaine.